Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM comme chaque mercredi à 17h30. Nous parlons de l'Université de Lille 1 dans le cadre de USTL Info. Chaque semaine, un invité nous présente l'action de l'université, les grands chapitres de ce projet universitaire de Lille 1. Et cette année, nous allons parler de la recherche avec le vice-président chargé de la recherche qui s'appelle Issam Charour. Bonjour.
Bonjour.
Donc, la recherche sur une université, c'est bien sûr quelque chose de très important. On peut dire qu'il n'y a pas d'université sans recherche, ou alors elle est disqualifiée.
Bien entendu. Donc, l'université a deux missions principales, la formation et la recherche. Mm-hmm. Ce qu'on entend par la recherche, c'est la production des savoirs, la diffusion et le transfert. Donc c'est tout cet ensemble-là qui qualifie la recherche. Mm-hmm. Et ça fait une partie importante de la mission de l'université, effectivement.
Donc production, diffusion, transfert.
Tout à fait.
La recherche, c'est forcément quelque chose de très pointu. C'est de plus en plus compliqué de chercher.
En fait, compliqué. Non, donc la mission, la recherche n'est pas récente. Hein, donc ça, c'est né quand même avec l'humanité.
Oui.
On était toujours tenté.
Mais on pense toujours qu'à un moment donné, on aura tout, soit tout trouvé, soit du mal à continuer à chercher et à trouver autre chose.
Oui, donc on travaille dans des ensembles qui sont très 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 larges. La frontière de la connaissance, malheureusement, elle est limitée. Ce qu'on essaie de faire, c'est de pousser chaque fois plus loin.
Mm-hmm.
Et quand on pousse plus loin, on se rend compte qu'en quoi il faut encore pousser plus loin et plus loin.
On peut dire que c'est infini.
C'est infini. L'ensemble, il est vraiment très 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 grand. C'est l'infini. Et notre rôle, c'est de pousser autant que possible. Et les frontières donc de la connaissance en général, et deuxièmement, c'est essayer de les appliquer vers le progrès économique et social.
Donc, alors, les aspects, chaque chercheur, bien sûr, va défendre sa spécialité. Est-ce qu'il y a quand même des recherches qui peuvent sembler au départ plus importantes que d'autres? Là, je pose une colle.
Non, donc des recherches plus importantes que d'autres, non. Donc, il y a des recherches qui peuvent avoir des applications et plus immédiates. On a l'impression qu'elles sont plus importantes que d'autres. Donc, l'exercice qu'on a, c'est surtout, comme j'ai dit, c'est de pousser les frontières de connaissances. Mm-hmm. C'est ça qui est très important. Et les applications, il y en a qu'on voit immédiatement, d'autres qui vont venir beaucoup plus tard. Sur la recherche, je parle fondamentale.
Mm-hmm.
Et l'exercice même, je dirais, de la recherche, c'est un exercice qui est assez important.
Mm-hmm.
Parce que c'est un exercice qui est à la fois formateur. C'est-à-dire que, effectivement, ce qu'on vise, nous, c'est améliorer les connaissances. Mais en faisant ça, on effectue un exercice intellectuel qui est assez important aussi. Et c'est formateur. Et les résultats de la recherche ne sont pas toujours, je dirais, positifs au sens. On part dans une direction, on fait des hypothèses, on peut trouver, on ne peut pas trouver. Qu'on trouve, tant mieux. Et qu'on ne trouve pas, je dirais, le résultat est fort intéressant, parce que ça veut dire qu'on va se poser des questions sur le pourquoi. Pourquoi on n'a pas trouvé, pourquoi telle hypothèse ne marche pas. Et ça peut nous conduire sur d'autres thèmes, sur d'autres pistes.
Alors, justement, quand on cherche, on s'appuie toujours sur les recherches précédentes, c'est sur des résultats, alors comme vous dites, certains négatifs, certains positifs. Déjà, avoir cherché dans une fausse direction, ça permet aux gens de ne pas s'engouffrer encore dans la même, peut-être.
Ce qu'en fait, de conduire dans une fausse direction, bon, a priori, on ne connaît pas la direction. Si on est dans le domaine de la recherche, on est dans le domaine de l'inconnu.
Mmh, mmh.
Donc, ce qu'on essaie de voir, c'est pousser plus loin.
Mmh.
Donc, on est sur des pistes.
Hein,
et ce qu'on essaie de réfléchir, de penser, d'aller observer de plus près, en laboratoire, descendre à des échelles assez importantes pour expliquer des phénomènes.
Comment on valide l'échec d'une orientation, c'est-à-dire on comprend quelque chose qui aboutit, bon, on valide l'hypothèse qui a été démontrée, mais une hypothèse qui n'a pas été démontrée ou qui a démontré son non-fondement, est-ce qu'on peut aussi valider le fait que...
Donc, ce qu'on essaie de faire, surtout dans le côté sciences physiques, chimiques, donc là, on a des possibilités d'observer à des différentes échelles. Donc, on peut faire des mesures. Et la réalité, elle est avec les mesures. C'est-à-dire, c'est la réalité, elle est là. Donc, on est sur des hypothèses où, effectivement, il ne marche pas avec la réalité. C'est que, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on se pose des questions sur ces hypothèses. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on a fait? Etc. Et là, il y a un retour sur les hypothèses qu'on avait émises. Ou bien, autre chose, c'est sur les mesures qu'on effectue. Parce que là aussi, quand on effectue des mesures, on n'est pas non plus certain. Donc, on peut se poser aussi des questions sur la méthode de la mesure. Comment on fait? Est-ce que dans ces mesures-là, il n'y a pas quelque chose qui manque? Etc. Donc,
quand on fait des recherches actuellement, est-ce qu'on peut retomber parfois sur des résultats qui remettent en valeur des recherches qui ont été faites par des scientifiques d'il y a 1000 ans, 2000 ans Est-ce que ça peut relégitimer des orientations ou des travaux qui ont été faits?
Je pense que, si je prends dans un certain nombre de domaines, par exemple sur le domaine de mathématiques, il y a un certain nombre de questions ou des problèmes qui sont restés ouverts. Et que des gens continuent à travailler là-dessus. Et effectivement, sur certains problèmes qu'on qualifie d'ouverts, il y a des progrès, il y a des réponses, des problèmes qui étaient posés depuis un certain temps. Ce n'est pas forcément des problèmes récents. Mais bon, je dirais que ce n'est pas la tendance. On reste maintenant, il y a une accumulation quand même des savoirs. Donc effectivement, il peut y avoir des problématiques assez anciennes sur lesquelles certains continuent à travailler. Mais bon, là on est vraiment dans une évolution, on travaille plutôt sur des choses assez modernes quand même.
Est-ce que pour être chercheur, il faut être aussi un peu philosophe?
Bien sûr, je veux dire que le chercheur, c'est quelqu'un qui se pose des questions en permanence. Et se poser des questions, quelque part, réfléchir, se poser des questions. Donc il faut avoir une part de philosophie aussi, dans la démarche.
Et ces questions, elles sont mises en perspective avec les tendances actuelles de la société contemporaine ou par rapport à l'humanité de manière globale, ancienne ou traditionnelle, on va dire?
Là, je dirais que c'est assez varié. Certains s'inscrivent bien sûr dans cette préoccupation sociétale, de progrès social. C'est une préoccupation, on va travailler dans ce domaine-là. D'autres ne se posent pas cette question-là. Disons, ils travaillent sur plus de questions de recherche amont, de recherche fondamentale, où l'application immédiate, on ne la voit pas. Mais cette application, je veux dire, elle peut aller dans le sens du progrès si on fait un bon usage. Mais elle peut aussi aller dans un sens qui n'est pas forcément de progrès sociétal.
Qu'est-ce qui récompense un chercheur?
Et c'est tout d'abord la reconnaissance. Ce qu'il cherche un chercheur, c'est qu'il soit reconnu dans sa communauté scientifique. La meilleure récompense d'un chercheur, c'est quand ses travaux sont cités par d'autres chercheurs. Quand il va dans un congrès, il est accueilli. Il dit, tiens, c'est M. Tel qui a écrit tel article. Bon, c'est vraiment la plus grande joie de chercheur quand il voit ses recherches appliquées. Bon, il y a telle application qui résulte de telle ou telle recherche, là aussi. Et autre chose, c'est qu'on va former des jeunes. Je vais former des jeunes en master, en doctorat. Plus tard, il va le rencontrer. Et là, il serait très très content de dire que ça, c'est mes étudiants, ils sont passés chez moi. Donc, ça aussi, je veux dire, cette reconnaissance par la formation, elle est aussi très très importante.
Est-ce qu'il existe aussi des prix qui récompensent des recherches?
Bien sûr.
Alors ces prix-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont honnêtement remis? Enfin, est-ce que ça correspond à une réalité de la qualité de la recherche ou c'est des effets de mode comme les prix littéraires ou d'autres choses?
Oui, là il y a pas mal de prix. On va parler de prix Nobel, d'autres prix. Donc dans le CNRS, il attribue chaque année un certain nombre de prix. Et ça dépend bien sûr des jurys. Mais dans l'ensemble, donc, dans ce que je connais, des choses que je connais moins bien, probablement dans le secteur des sciences sociales, peut-être des questions se posent davantage. Mm-hmm. Parce que bon, derrière la recherche, c'est des idées. On peut être d'accord ou pas d'accord, il peut y avoir des divergences. Mais dans les domaines plus qui relèvent de sciences fondamentales, je dirais, appliquées, là, je pense que les jurys font généralement un bon travail, parce qu'il faut justifier derrière. Mm-hmm. On ne peut pas attribuer des prix sur quelqu'un qui ne mérite pas. Mm-hmm. On est dans la communauté scientifique, dans des petites communautés. Mm-hmm. Les gens se connaissent. Ils connaissent les travaux, ils connaissent l'impact. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon, on va disqualifier en quelque sorte les jurys qui attribuent le prix.
Alors, le chercheur n'est pas isolé, il est quand même en équipe en général.
Bien sûr.
Donc on récompense l'équipe. Comment ça se fait?
Et très souvent, ce sont des équipes, bien mm-hmm. sûr, qui sont, comment dirais-je, compensées, effectivement.
Et donc le fait d'avoir été remarqué, ça aide à la communication de la recherche et à la faire se développer encore davantage. Il y a un effet boule de neige.
C'est un élément très, très important. Une reconnaissance d'un chercheur pour un site, pour une université, c'est un élément de communication pour l'université.
Et aussi très pour son laboratoire.
Pour le laboratoire. Quand je parle d'université, c'est au sens large. Ça veut dire qu'on mm-hmm. va trouver le laboratoire, l'équipe de recherche, la formation qui est derrière, mm-hmm. Le site, la ville. Il y a tout ça qui entre en jeu.
Ça peut aider aussi à avoir des moyens supplémentaires?
Bien entendu, parce que ça fait partie aussi de l'impact de l'équipe. Disons, mm-hmm. une équipe où il y a des prix, c'est que c'est une équipe où il y a des bons résultats de la recherche qui est reconnue par les pairs. Donc, effectivement, c'est un élément encourageant pour avoir davantage d'aide pour ces équipes-là.
Alors, comment se fait la correspondance par spécialité entre une spécialité de l'ILA et une spécialité d'une autre université française ou étrangère? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a des...
Oui, enfin, disons que, comme j'ai dit, de la bonne recherche, c'est la recherche qui est intégrée au niveau national et international. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la recherche isolée et coupée de ce qui se passe ailleurs.
Alors, comment on fait ce lien?
Donc, le lien, on va le trouver comment? Disons, il y a des réseaux. Mm-hmm. Des réseaux nationaux donc, qui existent, où les chercheurs vont se rencontrer. Il y a des réseaux internationaux. Et il y a des visites. Donc nous, à l'Université de Lille 1, chaque année, on reçoit des collègues étrangers qui vont passer un mois, deux mois, trois mois chez nous. Mm-hmm. On reçoit autour de 130, 140 chaque année.
D'accord.
Donc, il y a les congrès, c'est les conférences, les colloques, où là, c'est l'occasion où les chercheurs vont se rencontrer, débattre, discuter. Et après, il y a les revues. Parce qu'on fait de la recherche, on va les publier, on va les diffuser. Mm-hmm. Donc, c'est diffusé dans toute la communauté. Ces recherches-là, elles vont être lues, elles vont être critiquées.
Mm-hmm. Donc, voilà. Alors, parlons des revues. Alors, il y a bien sûr les revues qui s'adressent aux autres chercheurs, aux spécialistes. Est-ce qu'il existe des moyens de vulgariser la science et de la rendre accessible au plus grand nombre?
Et ça existe. Disons que c'est par communauté. C'est effectivement, dans la communauté scientifique, il y a des revues spécialisées. Après, il y a des revues qui sont un peu plus spécialisées vers le milieu professionnel, mm-hmm. des revues techniques. Mm-hmm. Pas trouvé. Maintenant, des revues grand public, il y a très peu. Donc, on va trouver dans la presse, les journaux, il y a des pages qui sont consacrées. Mais il se trouve que notre communauté n'est pas encore assez active là-dessus. En fait, les chercheurs ne communiquent pas suffisamment bien auprès du grand public. Mm-hmm. Sur ce qu'ils font, c'est de le simplifier pour que le grand public comprenne ce qu'on fait et surtout qu'il voit les retombées sociétales mm-hmm. de ce qu'on fait. Parce que quand je regarde dans une université comme l'université de Lille, il y a beaucoup de retombées sociétales sur ce qu'on fait. Mm-hmm. Et le grand public ne l'aperçoit pas. Et parce qu'on ne communique pas assez. C'est l'un des objectifs qu'on a au niveau de l'université de Lille 1. C'est vraiment travailler là-dessus.
Alors, si on est concret, on peut dire que l'université de Lille 1 a permis la réalisation de grands chantiers, de grandes choses. Peut-être qu'on peut donner quelques exemples dans les 20 ou 30 dernières années.
Et dans les 20-30, je pense que ce qui est important, c'est de voir le paysage actuel. Mm-hmm. Actuellement, la recherche est structurée avec le milieu socio-économique dans ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. Mm-hmm. Je prends cet exemple-là, c'est un élément structurant. Et la région Nord-Pas-de-Calais, elle a eu 6 bols labellisés, donc ce qui était très important par rapport à ce qui se passe au niveau national. Donc elle a eu pas mal de pôles de compétitivité. Et il se trouve que l'Université de Lille 1, elle est impliquée dans 5 pôles de compétitivité. Mm-hmm. Si je prends dans ces pôles de compétitivité, il y a le pôle e-trans sur tout le domaine de transport, mm-hmm. ferroviaire, sur l'aspect sécurité dans le transport, où on est très impliqué mm-hmm. au niveau de l'Université de Lille 1. Il y a le pôle nutrition-santé, donc les applications de la biologie, de la chimie, dans le domaine médical, dans le domaine de la nutrition, où on est très impliqué avec pas mal d'entreprises. Et il y a tout le domaine qui concerne les matériaux pour la chimie. Et là aussi, on est très impliqué, surtout avec les grandes entreprises de la région, même voire en dehors de la région. On travaille sur l'art des tables, on travaille sur tous les produits de nettoyage, etc. Donc ça, c'est, ça touche de près mm-hmm. le grand public. On est dans un pôle qui est assez intéressant, c'est tout ce qui est industrie de commerce. Ça veut dire comment utiliser tout ce qui est nouvelles technologies dans les services pour faire la logistique, le stock, comment dans un magasin, une grande surface, et utiliser ces nouvelles technologies pour que les clients puissent accéder à plus d'informations sur le produit, sur la traçabilité, etc. Mm-hmm. Donc là, il y a des projets concrets. Il y a aussi le pôle de compétitivité sur les textiles, l'application des textiles aussi. Donc on est également impliqué. Donc si je prends cet ensemble-là, on voit que l'université, elle est quand même pas mal impliquée. Hein, dans des domaines avec bien sûr le milieu socio-économique, hein, sur tous ces domaines-là qui intéressent de près les entreprises, et donc ils participent quand même de très très près à tout ce qui est développement économique de la région.
Mm-hmm. Issam Charrot, quels sont les problèmes que rencontrent éventuellement les chercheurs actuellement?
Et le grand problème qu'on a, c'est un problème vraiment sociétal, hein. C'est le problème de la reconnaissance de chercheurs dans la société. Je dirais que si je prends maintenant un jeune, je vais dire, écoutez, venez faire une thèse de doctorat, parce que vous allez faire après de la recherche, on peut avoir un bon métier. La question qu'il nous pose tout de suite, dites-moi un peu plus, comment ça va se passer, ma carrière. On va lui dire, écoutez, vous allez faire un master, c'est bac plus 5, après vous allez faire une thèse c'est entre 3 et 4 ans. Donc on est à bac plus 8, à bac plus 9 déjà. Ensuite, pour avoir une carrière, vous allez faire un post-doc, de préférence à l'étranger, 1 ou 2 ans, il est à bac plus 11. Et elle dit, oui, d'accord, bon, je vais le faire parce que ça m'intéresse. Et après, est-ce que je suis sûr d'avoir un travail? On dit, bon, écoutez, les places sont chères parce qu'il n'y a pas encore assez de places pour les chercheurs. Cette année, par exemple, il n'y a pas de création d'emploi. À l'université. On n'est pas sûr, bon, vous allez rentrer dans le domaine de la compétition, c'est possible. Et donc, il commence à avoir un peu d'inquiétude. Donc, quoi, bon, je vais faire quand même 11 ou 12 ans d'études, je ne suis pas sûr mm-hmm. d'avoir une place.
Alors, pour faire ces études, est-ce qu'ils peuvent être aidés?
Mais on a des allocations, généralement. Mm-hmm. C'est soit de l'État, soit de partenariat avec industriel, soit de la région. Donc, la plupart des thèses qui sont passées actuellement au niveau de l'université, elles sont financées. Mm-hmm. Dans certains secteurs, elles ne sont pas financées. Ça veut dire qu'on a, par exemple, si je prends dans le secteur économique, sciences sociales, on va trouver des gens qui plutôt travaillent. Ça veut dire qu'ils vont cumuler. Ils travaillent mmh, mmh. dans un lycée ou en entreprise. En même temps, ils font leur thèse. Donc, les thèses durent un peu plus longtemps. Mais généralement, on a effectivement, on a des allocations, on a un financement. Et le financement n'est pas très, très élevé. Hein. C'est des financements 1200, 1300 euros à peu près par mois pour 3 ans. Voilà un peu le financement dont on dispose. On peut avoir des possibilités d'enseigner, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, en gros, c'est 1 sur 3. Et occuper un poste de moniteur, donc donner quelques heures d'enseignement, il peut avoir un complément de salaire.
Ça, c'est les enseignants-chercheurs ou non?
Non, ça, c'est toujours les doctorants. Mais ils peuvent avoir un poste qu'on appelle moniteur d'enseignement. Donc, ils peuvent enseigner en même temps. Et ils font 60 heures. Et donc, bon, il y a un supplément de salaire là-dessus. Et cette année, on a eu également une possibilité qu'il aille plutôt en entreprise, travailler en moyenne, enfin, disons que quelques jours par semaine, enfin pas quelques jours par semaine, 30 jours sur l'année. Hein. Et donc pour aider dans le développement de l'entreprise, en même temps, mieux connaître un peu ce qui se passe dans les entreprises. Mm-hmm. Le dispositif, il est très récent, donc ça commence cette année. À Lille 1, on a déjà 6 qui sont entrés dans ce dispositif. Mm-hmm. Ce qu'on appelle, c'est le doctorat en conseil. Donc il va en entreprise pour conseiller l'entreprise. Et là, il y a également un petit supplément de salaire pour le doctorant. Moi, je pense, parce que quand on compare avec d'autres systèmes, je pense, système américain ou ailleurs, même en Europe, avoir le titre de docteur, même en Allemagne, c'est un titre qui a de la valeur. Mm-hmm. Et en Allemagne, quand on dit qu'on est docteur, c'est une reconnaissance d'un très très bon niveau de scientifique. Et on peut, avec ce titre-là, aller travailler en entreprise. Les entreprises embauchent. En France, les entreprises sont très frileuses là-dessus. Et je pense, et d'où tout l'impact. Parce que bon, si on veut, les entreprises veulent être compétitives, il faut rester sur l'innovation. Sur l'innovation, il faut avoir des gens qui étaient en contact avec la recherche. Et donc la France se prive d'une possibilité assez importante parce qu'ils n'embauchent pas assez de doctorants dans les entreprises.
Mais le fait d'embaucher, ça dépend des DRH.
Bien entendu.
Et les DRH ne sont pas du tout sensibilisés.
Non, parce qu'en France, on a le système des grandes écoles. Oui. Donc, de préférence, on va aller chercher dans les grandes écoles au détriment d'un recrutement de docteurs. En fait, de docteurs
Alors, cela, ça peut vouloir dire que des vocations vont peut-être disparaître, non ? Peut-être que les gens qui avaient envie de faire de la recherche se disent bon, ça paraît bien compliqué tout ça. On va
tout à fait.
Pas
donc, c'est pour ça qu'au début, ce que j'ai dit, c'est une question de société. Si on est convaincu maintenant, dans le cadre de la compétitivité internationale, qu'il faut que nos entreprises soient compétitives, c'est par l'innovation qu'il faut qu'elles soient compétitives. Avoir des employés par des agents, par des cadres qui sont vraiment dans un contexte international. Parce que je dis, quand on prépare une thèse, on est dans un contexte international. Mm-hmm. Donc on connaît un peu ce qui se passe. Quelqu'un qui a fait une thèse qui part en entreprise, il est tout de suite dans ce contexte-là. Mm-hmm. Et également, il a acquis une démarche qui est très importante. Il n'y a pas que la connaissance uniquement, c'est cette démarche, réfléchir, c'est de trouver les informations, les synthétiser, n'ai pas peur de tout l'aspect innovation, ça fait partie de sa culture. Et c'est une plus-value très, très importante pour les entreprises, s'ils veulent rester dans des compétitions internationales. Et là, malheureusement, nos entreprises, elles ne sont pas encore suffisamment sensibilisées. Par rapport à ça, on perd des parts de marché par rapport à d'autres entreprises qui sont plus dans cette culture.
Alors, à un moment donné, on parlait de la fuite des cerveaux de l'Est vers l'Ouest, souvent. Hein. Ça existe encore, ça ?
Ça continue, mais est moindre. Je dirais, si tu prends, par exemple, des pays comme la Roumanie, je prends un pays comme ça, où à un moment donné, effectivement, les conditions locales étaient très difficiles, où il y a eu beaucoup d'immigration, les cerveaux sont venus ici. Les conditions sont en train de changer, parce qu'ils ont intégré l'Europe. Et les conditions commencent à changer, donc il y en a moins. Certains collègues qui sont sur place, avec qui on est en contact, ils essaient maintenant de construire sur place, parce que, bon, il y a des possibilités. Donc, ce qu'on a connu il y a 15-20 ans, on l'a moins maintenant. Aussi, on peut dire que parce que l'essentiel sont partis aussi. Donc, il y a deux éléments. Il y en a beaucoup qui sont déjà partis et que les conditions sur place sont en train de changer aussi.
Et si on poursuit de France, donc des chercheurs français ou des gens qui ont le potentiel, qui vont à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, ça doit exister aussi ?
Ça existe, bien sûr. Oui. Et ce que j'ai dit au début, que maintenant, pour avoir une carrière, je prends le CNRS ou les organismes, on va demander un minimum un postdoc à l'étranger. Donc il y en a pas mal qui partent à l'étranger. C'est une bonne chose, hein. C'est important de partir à l'étranger pour voir comment ça fonctionne, connaître les moyens. Donc c'est quelque chose de très important. Mais certains, une fois qu'ils sont dans ce contexte-là, de cet environnement, avec un très bon équipement, un système performant, ça peut se discuter encore. Mais disons que l'impression d'avoir plus de moyens, plus de reconnaissance pour les chercheurs, certains sont tentés de rester. Et ne pas revenir.
Est-ce que les pays émergents économiquement sont les mêmes que les pays émergents au niveau de la recherche? Est-ce qu'ils émergent aussi au niveau de la recherche?
C'est très lié. Hein. Si je prends des pays comme la Chine, l'Inde, l'Amérique du Sud, sont des pays qui investissent beaucoup dans la recherche, énormément. Moi, je connais bien la Chine. Donc, effectivement, il y a un très, très grand effort de la Chine vers la recherche. L'Inde aussi, bon, c'est quand même... Et on sait bien qu'actuellement, le facteur de développement économique, c'est l'innovation, c'est lié à la recherche. Et voilà, ce n'est pas seulement le produit financier. Le produit financier, ce n'est pas ça qui fait la compétitivité.
Alors, en tant que vice-président donc, chargé de la recherche de l'Université de Lille, s'il y avait pour l'an prochain un vœu à formuler pour 2008, pour aider la recherche ou pour peut-être la valoriser ou faire prendre conscience le public, qu'est-ce qu'on pourrait...
Moi, je dirais, tout d'abord, ce qui est important, c'est de dire que dans les sciences, il y a de l'avenir pour les jeunes. Ce qu'on constate maintenant, il y a une désaffection des jeunes pour les sciences. Et donc, ce qu'il faudra, c'est dire aux parents, comme quoi, écoutez, envoyez vos enfants pour faire des sciences, parce que derrière, on peut avoir des métiers pour travailler. Et quand on les amène vers les sciences, ils peuvent continuer aussi pour faire de la recherche. Pas pour avoir, pour devenir des chercheurs. La recherche, c'est un élément de formation. Parce que ça aide à la recherche. Donc, ce qu'on essaie de faire au niveau de l'université, c'est intégrer la recherche dans la formation assez tôt, déjà dès la licence, commencer à parler un peu de la recherche comme méthode de travail, de réflexion.
Des expériences comme les petits débrouillards ou des émissions un petit peu spécialisées qu'on peut voir à la télévision, c'est porteur.
Ça aide, ça peut, je pense que c'est important. Dire comme quoi la recherche, c'est pas des chercheurs qui sont isolés dans leur bureau, dans leur coin, qui sont en train de travailler. C'est des chercheurs qui sont complètement intégrés dans la société, qui travaillent sur des questions, qui ont un intérêt sociétal. Et ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, c'est que le côté économique, la société, c'est ça, dans son ensemble, reconnaissent. Là, il y a vraiment des enjeux. Il faut que les entreprises reconnaissent comme quoi faire de la recherche, c'est important, c'est fondamental. Donc, on va embaucher des chercheurs. On va embaucher des doctorants, on va financer des laboratoires de recherche, parce que ça on va de la compétitivité. Et également l'État, je dirais, parce qu'il y a quand même des postes au niveau des collectivités locales, au niveau de l'État. Là encore, on embauche très peu de doctorants, alors qu'on a besoin de compétences. Donc l'État peut donner aussi l'exemple.
Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part en retraite, est-ce que ça vous touche également?
Pour cette année, non. Dans l'avenir, on n'en sait rien, mais les craintes sont réelles. Elles sont réelles, et qu'il n'y a pas de remplacement des départs à la retraite et qu'on va remplacer ces postes-là par des postes plutôt à durée déterminée. Mm-hmm. Et donc, bon, situation qui est plutôt précaire.
On ne peut pas faire de recherche à durée déterminée, quand même.
Justement, donc là, il y a une réelle inquiétude dans la communauté scientifique en disant comme quoi, si on veut faire de la recherche, il faut avoir aussi une vision. Ça s'inscrit dans une durée. Et multiplier les contrats à durée déterminée, ça peut poser des difficultés.
Merci, Sam Chor.
Merci bien.